Oui, non pas pour vous persuader que j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, mais peut-être pour vous situer un petit peu ma démarche et pourquoi je me pose des problèmes comme celui de l'anthropologie et de rapprochement entre la discipline anthropologique et des phénomènes de mondialisation, globalisation. Voilà, je travaille donc depuis plus de 40 ans en Afrique, essentiellement dans les régions sahariennes. J'ai travaillé sur les Touaregs du Niger et ceux du Mali, dont on parle beaucoup actuellement. Puis en Mauritanie, où j'ai étudié un émirat mauritanien. Cette structure politique qui se sont développées, peu de gens le savent, aussi bien en Afrique que dans la péninsule arabique, il y a des émirats. Donc j'ai eu à étudier pendant une dizaine, 10-15 ans cette structure et en sortir plusieurs publications. Et puis surtout, j'ai été amené pendant cette maintenant déjà longue carrière, j'ai été amené à être le coéditeur d'un dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie qui est sorti aux presses universitaires de France et qui m'a amené à reprendre sur le fond un certain nombre de problèmes qui m'étaient semblés jusqu'à présent un peu annexes dans mes expériences de terrain. Et l'un de ces problèmes, c'était celui de comprendre comment l'approche anthropologique est amenée à saisir ce nouvel objet qui se présente à elle, qui est le phénomène de mondialisation. Jusqu'à présent, l'anthropologue travaillait surtout sur des sociétés de cultures différentes, mettait l'accent sur la distinction beaucoup plus que sur la convergence dont rencontre immédiatement les termes de mondialisation et globalisation, sur lesquels je vais revenir d'ailleurs tout de suite. Ça m'a beaucoup incité donc à aborder ce genre de questions et je vais vous livrer quelques-unes de mes conclusions, ou plutôt de mes approches, parce que ce sont des conclusions très provisoires à ce propos. Alors, on peut dire immédiatement qu'il y a peu à dire justement sur la... Il est peu de dire que la mondialisation suscite débats, polémiques et conflits. Au risque, sans doute, j'en suis bien conscient, de lasser les lecteurs et en l'occurrence les auditeurs qui reçoivent au gré des discours politiques mais aussi scientifiques les jugements les plus contradictoires mais toujours péremptoires, les analyses les plus divergentes. Alors, je rappellerai simplement quelques-unes des questions, alors de manière très générale, que pose ce phénomène de mondialisation, de globalisation. Assistons-nous à l'écroulement d'une société capitaliste qui est allée au bout de ses présupposés idéologiques libéraux ou à l'émergence d'un nouvel universalisme? Voilà le genre de question qui intervient parfois en fond d'analyse politique que vous avez l'occasion d'entendre sur les médias. Allons-nous vers un redéploiement multipolaire des puissances mondiales, rééquilibrant la domination séculaire de l'Occident, ou vers un nouveau creusement des inégalités au profit de nouvelles oligarchies, source de problèmes à venir? Troisième question, qui est plus dans les préoccupations habituelles des anthropologues, faut-il s'attendre à l'uniformisation croissante de la culture monde ou à un foisonnement nouveau des expressions culturelles particulières? Alors, naturellement, ce dernier point concerne plus particulièrement les anthropologues. Les travaux scientifiques, en effet, n'échappent pas à ces questionnements et aux autres interrogations que suscite un phénomène dont l'ampleur et l'accélération interpellent quotidiennement et souvent inquiètent. Les disciplines des sciences humaines ont progressivement tenté d'en prendre la mesure. Si les économistes et les politologues occupent encore le devant de la scène sur ces questions, les anthropologues sont eux aussi rentrés sur l'arène bruyante de débats tout aussi passionnels et contradictoires que ceux qui traversent le champ du politique, auquel d'ailleurs, plus que jamais sans doute, les sciences humaines et sociales servent de référentiel. Alors, pour s'en tenir aux seuls travaux en français, en reconnaissant une certaine priorité s'agissant de ces questions aux auteurs anglo-saxons, mais aussi une certaine continuité des travaux en France qui s'inspirent largement de ces auteurs anglo-saxons, la dernière décennie, la date de 2000 et celle devenue symbolique de 2001, marquant la rupture, correspond à la production de plus en plus large de travaux de synthèse sur le thème de l'anthropologie, de la mondialisation ou de la globalisation. Je vais revenir sur cette question de vocabulaire immédiatement. Quelques référents bibliographiques avant. Précurseur sans doute, Jean-Pierre Varnier publie en 1999 un ouvrage original, et qui va être d'ailleurs très bien reçu dans le milieu scientifique, sous le titre « La mondialisation de la culture ». La traduction en français en 2002 d'un ouvrage américain, mais en fait dont l'auteur est d'origine indienne, ce qui illustre une fois de plus ce fait de mondialisation. Donc cet auteur d'origine indienne qui s'appelle Arjuna Padurai, la publication de cet ouvrage sous le titre « Après le colonialisme » joue aussi un rôle dans cette extension des recherches, venant après un premier ouvrage du même auteur, non traduit en français, mais qui a eu aussi un certain succès. Ce livre s'appelle « The Social Life of Things, Commodities in Cultural Perspectives », traduit en 1986. Ces premiers ouvrages sont encore ouverts sur des problématiques plus anciennes, où l'on observe l'influence du philosophe Jean Baudrillard, qui les oriente vers des travaux portant sur la société de consommation ou le système des objets, ainsi que sur l'importance des recherches sémiologiques, un peu dans la continuité des travaux de Roland Barthes. Les travaux qui se succèdent ensuite proclament très ouvertement leur ambition, dégager de nouvelles problématiques de la mondialisation-globalisation. Je citerai quelques titres beaucoup plus récents en France à ce sujet. Nous avons en 2004 un ouvrage de Raphaël Bessis, Dialogue avec Marc Auger. Marc Auger, que vous connaissez sans doute, anthropologue et philosophe, ancien président de l'École des études en sciences sociales. Donc, Dialogue avec Marc Auger autour de la mondialisation. En 2007, un livre important de Constantin van Berhoven, Barloven, pardon, Anthropologie de la mondialisation. En 2008, Marc Abeles écrit une anthropologie de la globalisation. Et en 2010, Bernard Huss et Dominique Selim sortent à leur tour une anthropologie critique de la globalisation. Vous voyez donc une accumulation de travaux récents qui souligne l'intérêt croissant pris par les anthropologues à cette nouvelle problématique. Encore, ces ouvrages que je viens de citer ne sont-ils que des ouvrages généraux introduisant la thématique, dont je ne retiens d'ailleurs que ce caractère sans émettre de jugement sur leur contenu. Je vous cite simplement les travaux, il ne s'agit pas de les analyser ici. Les publications d'articles de revues ou de chapitres d'ouvrages connaissent aussi une forte croissance et certaines revues se spécialisent même sur ce thème auquel elles consacrent une large place. Je pense par exemple au Journal des anthropologues, Parcours anthropologique, la revue du MOS en France ou encore au Canada, la revue canadienne Anthropologie et Société. Toutes ces revues vont se spécialiser progressivement et partiellement sur cette thématique. Ces recherches, cependant, apparaissent moins visibles qu'aux USA ou en Grande-Bretagne, où elles sont régulièrement publiées dans des revues plus, on pourrait dire, plus classiques, généralistes ou relevant de l'ère culturelle. On peut se demander si ce retard correspond à un provincialisme de la recherche anthropologique française ou à une certaine volonté de reconstruction, qui n'est d'ailleurs pas forcément une déconstruction critique, des problématiques anglo-saxonnes dominantes. C'est une des questions que l'on peut se poser, dont je laisserai juge les auditeurs au terme de l'examen que je me propose d'entreprendre aujourd'hui et maintenant des développements de cette problématique dans le contexte français. excusez-moi, j'ai les doigts un peu gourds. Il faut vous dire aussi qu'il y a 4 jours, j'étais au Sahara et que la rupture est un peu brutale. Alors, quel objet de recherche privilégier et conduire et construire? Je vais maintenant revenir sur cette notation que j'ai déjà faite de l'usage de deux termes qui semblent à peu près équivalents, mondialisation et globalisation, pour désigner des choses que l'on peut rapprocher. Je pense qu'une réflexion sur ces termes, pour commencer, peut être intéressante. C'est vrai que nous-mêmes, nous utilisons souvent, ou les journaux utilisent souvent ces termes mondialisation, globalisation, sans trop réfléchir à leur contenu. Et c'est à cette réflexion que je voudrais commencer par vous convier. Alors, on remarquera que les titres que je viens de citer, les plus récents en particulier, semblent privilégier le terme globalisation à celui de mondialisation. Alors qu'il me semble que ces deux termes sont en fait assez interchangeables dans la pensée, dans les travaux anglo-saxons, avec une priorité au terme globalisation considéré comme plus général. Cette opposition plus rigide, donc dans le cas des ouvrages français, bien que cela reste relatif, ne me paraît pas sans signification. Donc je vais essayer de voir quelle distinction dessine cette différence de terminologique entre mondialisation et globalisation. On peut dire que l'usage du terme mondialisation recouvre un ensemble de représentations, de pratiques et de relations interconnectées sous forme de réseaux, principalement, qui apparaissent de multiples natures. La plus évidente est sur le plan économique, avec la financiarisation, par exemple, de l'économie mondiale, à laquelle l'un de mes collègues, Paul Jorion, après un long travail d'immersion ethnographique dans les milieux financiers, il a essayé de faire de l'ethnographie de la bourse et des banques américaines en particulier, a consacré plusieurs études dont les résultats sont d'ailleurs tout à fait passionnants. Je vous conseillerais volontiers la lecture de la crise du capitalisme américain qui date de 2007. Mais ces réseaux ne sont pas seulement économiques, il s'agit aussi de réseaux sociaux. Illustré, bon, c'est un cas assez exemplaire et assez parlant, illustré par les nouveaux courants migratoires et la multiplication de nouvelles approches plus holistiques, enfin plus globalisantes du fait migratoire, sur lequel je serai amené d'ailleurs à revenir par la suite si j'ai le temps de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Des réseaux aussi d'ordre politique. Et là, il faut voir le rôle croissant des institutions internationales et transnationales, publiques ou privées, le phénomène des ONG, qui ont suscité en particulier un renouvellement des études sur le développement. Et enfin, des réseaux, on pourrait poursuivre, mais je citerai encore les réseaux d'ordre culturel, marqués aussi par la formation de réseaux transnationaux et la constitution d'une, ce qu'on appelle une société du spectacle, du nom du titre de l'essai de Guy Debord, qui date d'ailleurs de 67 déjà et qui n'est pas au départ forcément lié fondamentalement à cette problématique de la mondialisation. C'est-à-dire que la notion de mondialisation rend plus particulièrement compte, me semble-t-il, d'un monde qui se constitue comme une totalité construite, fortement historicisée de ce fait. Il existe d'ailleurs d'autres formes historiques de mondialisation, concernant aussi des totalités partielles, mais tendanciellement closes. C'est le cas du monde antique. C'est le cas du système marchand précapitaliste qui se développe au XVIe siècle. C'est le cas du monde colonial et colonisé. L'appellation de guerre mondiale au XXe siècle souligne aussi cette empiricité de la notion qui se perpétuera dans le contexte contemporain. Cette notion de mondialisation renvoie ainsi à un mouvement historique susceptible d'interventions pratiques, objet elle-même de polémiques ouvertes, polémiques libéralisme contre régulation, ouverture contre contrôle de marché, etc. Voilà pour la mondialisation. La globalisation désigne des réalités qui me semblent différentes. Et cette différence se manifestera dans l'approche des anthropologiques. La globalisation me semble rendre compte de la généralisation de normes et de valeurs accélérée par le développement des techniques d'information et de communication qui affectent principalement les expressions culturelles dans leur diversité totalisante, même si le fondement reste la convergence du raisonnement économique dominant qu'incarne la notion de marché dont l'abstraction contemporaine croissante atteint les limites de l'absurde. Ça signifie que le terme totalité n'aura pas le même sens exactement en ce cas que dans celui qu'il présente dans le contexte de la mondialisation. Il est susceptible d'être entendu au sens d'une convergence holiste qui a pour conséquence de remettre en question l'ensemble des identités acquises. Je cite là la mondialisation, alors là entendu comme globalisation, c'est la distinction que je vous propose ne colle pas forcément avec l'usage qu'en font tous les auteurs, mais entendu alors comme globalisation, si l'on me suit, ne répond à aucun modèle culturel connu jusqu'ici. Note avec justesse le politologue suisse Gilbert Rist dans un texte stimulant « La mondialisation des antisociétés, espaces, rêves et lieux communs » paru en 1997. Ce n'est pas le cas de la mondialisation telle que l'entendent généralement les auteurs français, comme une totalité empirique, historique, qui s'accommode d'un redéploiement des distinctions économiques, politiques, culturelles, etc., dont témoigne par exemple le modèle chinois, voire même de nouvelles distinctions multipolaires qui illustrent les pays dits émergents. Bon, ces distinctions lexicales me semblent importantes, mais ne reste qu'un élément de l'approche préalable que l'on peut faire de ces phénomènes de mondialisation, globalisation. J'en retiendrai surtout les deux types de totalité, les deux approches de la totalité que recouvre ces thèmes. Une notion de totalité qui est de nature plutôt historique, rendant compte empiriquement des processus constitutifs de cette totalité, et une autre correspondant à une convergence soliste des comportements, des normes et des valeurs. Se référer de plus en plus prioritairement à ce terme de globalisation, c'est ce que font les auteurs français, implique que l'anthropologue se consacre à l'exploration de ce champ ouvert des transformations culturelles, relevant d'un état que nous appelons post-moderne, c'est-à-dire auquel la connaissance ne peut attribuer les significations a priori, celles de progrès, de rationalité, etc., que présupposait la modernité héritée des Lumières. Le terme post-historique serait d'ailleurs vraisemblablement plus pertinent que celui de post-moderne, en rendant compte du fait que le résultat de ces transformations ne peut être conçu à travers les expressions culturelles antérieures et que l'aboutissement ouvert peut en être l'uniformisation d'une culture monde dont notre imaginaire retient toute la dangerosité dont cet effet l'interprète précurseur Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, inspiré des totalitarismes de son temps. S'il participe de cette perspective générale, les anthropologues, dans leurs travaux, font néanmoins aussi le constat que cette globalisation, loin d'aller dans le sens d'une homogénéisation mondialisée des comportements et expressions culturelles, produit sans cesse de nouvelles distinctions qui s'offrent à leur investigation. Ils observent l'émergence de nouvelles cultures, qu'on appelle parfois métisses ou encore créoles, le plus souvent non localisées et diffuses, qui remettent en cause les classifications ethnologiques classiques, comme l'avait déjà envisagé un autre de mes collègues, Jean-Louis Hamsel, dans un ouvrage qui s'appelle « Logique métisse, anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs », paru en 1990. Il constate des ajustements particuliers à des normes et valeurs qui s'universalisent et donnent naissance à de nouvelles formes d'intégrisme religieux, à de nouvelles formes d'expression religieuse, le salafisme, le judaïsme, le djihadisme, le pentecôtisme, l'évangélisme, le scientisme, etc., etc. Je pourrais poursuivre l'énumération pendant quelques minutes. Je reverrai plutôt en ce domaine à l'ouvrage de Jean-Pierre Batian, Françoise Champion et Cathy Rousselet, La globalisation du religieux, édité en 2001. Mais on constate aussi des situations de pluralité juridique entre universalisme des droits de l'homme et communautarisme, dont je reparlerai plus loin dans mon exposé. Les anthropologues ont à rendre compte des formes de résistance à la mondialisation, à ses effets de production de nouveaux rapports de domination, de nouvelles inégalités et aux formes nouvelles de développement de la pauvreté qui entraînent de nouvelles différenciations sociales et culturelles. Sur ce dernier point, on se référera volontiers à l'ouvrage de Daniel Terol et Patrick Brunteau, L'arrière-cour de la mondialisation, ethnographie dépaupérisée. Bon, je ne peux qu'évoquer aujourd'hui les champs de recherche qui se sont ainsi ouverts ces dernières années, et j'en reviendrai à mes interrogations initiales sur le destin de la discipline anthropologique dans ce nouveau contexte, confrontée à de nouveaux terrains, à de nouveaux objets, conduite peut-être à redéfinir son projet. On peut formuler alors plus précisément ces interrogations et poser une question préalable. Une anthropologie de la mondialisation globalisation peut-elle s'établir sur les mêmes bases épistémologiques et méthodologiques que la discipline qu'ont pratiquée jusqu'à présent les anthropologues? J'aborderai cette question à partir d'une question préalable, question courte, qui s'intitule « Une ethnologie de la mondialisation est-elle possible ?», qui est en fait une question qui reprend le titre d'un ouvrage, d'un article de Vincent Mirza, paru en 2002 dans la revue canadienne Anthropologie et Société, et dont il me semble qu'elle peut constituer une bonne introduction à ce questionnement. Vincent Mirza remet sur le devant de la scène, cette question remet sur le devant de la scène la distinction ancienne mais mouvante et difficilement théorisable entre ethnographie, ethnologie et anthropologie, ainsi que la tension qui traverse en conséquence le champ de la discipline entre ces approches de la totalité d'une société culture. En fait, tous les chercheurs, je pense que tous mes collègues auront la même réflexion que moi, tous les chercheurs de la discipline anthropologique ont été un jour ou l'autre interpellés, plus ou moins naïvement selon les interlocuteurs, sur ce thème. Quelle différence y a-t-il entre ethnographie, ethnologie d'une part, anthropologie de l'autre ? À cette question simple, mais qui embarrasse sérieusement l'anthropologue, je vais me risquer à apporter une réponse qui d'ailleurs n'en exclut sans doute pas d'autre. Partons d'une expérience particulière, le terrain dans sa dimension locale, la monographie, si vous voulez, la monographie d'un village, la monographie d'une tribu, etc. L'ethnologie se propose d'en induire cette totalité particulière dont Marcel Mauss rendez compte en parlant de fait social total. Ces faits qui, telle l'institution du don que tu dis Mauss, rendez compte, donne un point de vue particulier sur la totalité d'une société culture. L'anthropologie, dont le travail est en dernière analyse comparatif, se propose de décrypter en identifiant des universaux. C'est plus particulièrement le projet de l'anthropologie sociale, ou des invariants, ce qui est plutôt le cas de l'anthropologie culturelle, les deux grandes branches de la démarche anthropologique. Un autre aspect de la totalité, celle que Claude Lévi-Strauss identifie à travers les structures identiques de l'esprit humain, lui-même inscrit dans la nature, ou que les culturalistes américains chercheront à fonder dans le champ invariant des cultures humaines, à travers des notions telles que celles de personnalité de base, de pattern of culture, c'est-à-dire de modèle culturel, si vous voulez, etc. Ces deux approches ont été utilisées pour fonder le projet anthropologique. Les données ethnographiques et ethnologiques qui ont une certaine autonomie, qui peuvent être analysées et étudiées en tant que telles, et qui ont un caractère performatif, sont réinscrites dans le champ comparatif où elles acquièrent de nouvelles significations. On peut se demander si cette situation a encore une valeur heuristique quand il s'agit d'une anthropologie de la mondialisation, globalisation. Et se poser la question, je reviens à mon point de départ de cet aspect de ma digression, une ethnologie de la mondialisation est-elle possible ? Le problème que je viens d'exposer s'est posé en fait avant même que la question ne s'exprime en ces termes. Au fondement des approches postmodernes, l'anthropologie interprétative, illustrée par les travaux de Clifford Geertz, procède à une nouvelle lecture des données ethnologiques. Celles-ci sont conçues comme passant par la constitution d'un texte ethnographique, la notion de texte est extrêmement importante dans cette approche, qui n'est qu'un genre parmi d'autres du discours sur l'autre. Reprenant l'évolution des recherches sur ce thème, Jean Jamin, dans un article publié dans Études rurales en 1985 et intitulé « Le texte ethnographique, point argument », souligne que ce texte est soumis aux mêmes règles que les autres formes de discours impliquant l'analyse des règles, impliquant, je cite, l'analyse des règles de composition et d'écriture, l'examen des ensembles notionnels et des langages, l'estimation des variations d'échelle de l'objet et des implications sociopolitiques du texte qui le représente. Dans le contexte de la mondialisation-globalisation, l'écriture ethnographique pose des problèmes croissants et contribue à redéfinir la notion d'auteur et d'autorité en anthropologie. Dans ce contexte, en effet, la relation avec l'autre, qui est notre objet d'étude, se trouve totalement déplacée. L'ethnologue ne se trouve plus dans la situation classique qui caractérisait la situation coloniale, que j'ai d'ailleurs pratiquement connue, ayant fait mes premiers terrains au Niger 5 ans après l'indépendance, en 1965. Donc, qui caractérisait la situation coloniale de distance sociale et culturelle, qui n'exclut pas l'empathie, mais réduit par contre le partage réciproque des savoirs et des affects. Les nouveaux terrains sur lesquels nous avons à travailler en tant qu'ethnologue, un match de football, la vie d'une secte, les activités des médias, les courants migratoires, les cultures de pauvreté, les bourses financières, et on pourrait naturellement prolonger la liste, sont proches de la vie quotidienne, de l'ethnologue lui-même. Et il en partage aisément, sinon la réalité, du moins l'imaginaire, ainsi que le montre Marc Hatzfeld dans son livre « Les Dézingués, parcours de SDF » paru en 2006. À quelques degrés, les individus et les groupes qu'il étudie lui ressemblent à l'ethnologue, mais dans un monde que Baudrillard caractérisait par le simulacre, où se brouillent les référentiels du réel, ainsi que l'illustre jusqu'à l'absurde dans les Club Peoples, la multiplication à l'infini des Johnny Hallyday et des Michael Jackson. Enfin, vous avez déjà vu ça à la télévision. Je n'insiste pas. D'autres aspects de la méthode ethnologique s'en trouvent par la même occasion interrogés. C'est le cas de la notion d'observation participante sur laquelle s'appuyait l'idée d'une neutralité de l'auteur qui s'immergeait dans une société donnée et traduisait son comportement, ses pratiques, ses représentations, avec la distance qui garantissait cette objectivité. Pierre Bourdieu a contribué à développer une autre notion, celle d'anthropologie réflexive, dans un ouvrage édité par Loïc Wacan, « Réponse pour une anthropologie réflexive, entretien avec Pierre Bourdieu », en date de 1992. Il appelle les chercheurs à prendre en compte leur propre conditionnement culturel, les forces épistémologiques et politiques qui les animent. Plusieurs ouvrages récents ont développé des analyses dans ce domaine, tel celui édité par Christian Gassarian en 2002 de l'ethnologie et l'anthropologie, nouveaux terrains, nouvelles pratiques, nouveaux enjeux, ou encore le livre édité par Olivier Le Cervoisier, Terrain ethnographique et hiérarchie sociale, retour réflexif sur la notion d'enquête. C'est un ouvrage que j'ai participé d'ailleurs, qui date de 2005. La notion de distance par rapport au terrain qu'avait illustré Claude Lévi-Strauss dans Le regard éloigné, c'est le titre d'un de ses ouvrages, s'en trouve ainsi radicalement repensée. À la traversée initiatique de l'Atlantique qui alimentait le projet anthropologique de Lévi-Strauss gagnant le Brésil et concevant Triste Tropique, succède la, on peut dire triviale, traversée du Luxembourg, c'est le titre d'un ouvrage de 85, ou encore Un ethnologue dans le métro, ouvrage de 86. Ces deux ouvrages écrits par Marc Auger, qui poursuit là son anthropologie du quotidien en explorant ce qu'il appelle les non-lieux, ces espaces d'anonymat qui accueillent chaque jour des individus plus nombreux, les parcs publics, les transports en commun, etc., etc. Je voudrais aborder maintenant une autre question qui est liée à ces apories, disons, que rencontre l'anthropologue confronté aux questions de l'analyse de la mondialisation ou de la globalisation. Aporie qui concerne la redéfinition qui va apparaître nécessaire des rapports entre le local et le global. Le sociologue anglo-saxon Roland Robertson, pionnier des études sur la mondialisation-globalisation, souligne dans son ouvrage « Globalization Social Theory and Social Culture » paru en 1992, correspond, je cite, à une intensification de la conscience du monde en tant que totalité. Cette réflexion me conduit à prolonger les interrogations sur le texte ethnographique et la démarche ethnologique. L'idée que la totalité de la société ou de la culture puisse s'induire d'une approche locale de celle-ci apparaît de moins en moins heuristique, alors qu'à l'inverse, la conscience de cette inscription du local dans la globalité s'impose de plus en plus évidemment aux chercheurs. Je pourrais dire, ne serait-ce qu'anecdotiquement, à travers cette culture d'aéroport que, lorsqu'on est un chercheur qui se déplace un peu, nous retrouvons au gré de nos déplacements sur le terrain. Rien ne ressemble plus au fonctionnement d'un aéroport que celui d'un autre aéroport. La circulation universelle de l'information avec les nouvelles techniques de communication brouille avec la présence, là je cite des cas que j'ai observés, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec la présence par exemple d'un poste de télévision branché sur batterie dans une tente nomade saharienne, écoutant avec passion Al Jazeera. C'est cette circulation universelle de l'information remet en question tout projet d'observation participante et de regard éloigné. Il y a quelques années, je l'ai recherché pour vous la projeter, mais je n'ai pas retrouvé malheureusement. Mais il y a quelques années, circulait dans notre milieu une amusante caricature montrant des indigènes, naturellement des guillemets indigènes, caricaturaux, ornés de plumes et d'os à travers le nez et les oreilles, déménageant en catastrophe de la maison collective, le poste TV, le magnétoscope, le four micro-ondes et autres artefacts de la civilisation moderne, en s'exclamant « Cachez tout, voilà l'ethnologue ». Je ne sais pas si vous imaginez la caricature, elle a eu beaucoup de succès dans notre milieu. « Cachez tout, voilà l'anthropologue », lequel apparaissait effectivement en arrière-plan, débarquant de sa pirogue pour venir étudier ces indigènes. Cette réflexion de Robertson sur l'intensification de la conscience du monde en tant que totalité, qui est un phénomène global qui déborde la situation de l'anthropologue proprement dit, cette réflexion m'amènera à reprendre certaines des questions abordées dans le précédent chapitre et concernant plus particulièrement le statut du local et le paradigme de la distance-proximité. La pertinence de la notion de local comme mode privilégié de contextualisation d'observation, l'anthropologue avait justement pour caractéristique non pas de travailler des questionnaires, d'élaborer des statistiques, mais de saisir à travers une expérience particulière les traits de la société ou de la culture qui se proposait d'étudier. Cette pertinence de la notion de local est bien évidemment remise en question du fait de la multiplication des structures en réseau que j'ai précédemment évoquées. Je vous donnais quelques exemples empruntés à mes recherches en Mauritanie. Ces réseaux sont fondés sur de multiples canaux de l'échange et naturellement en particulier des échanges d'ordre économique. Dans le cas des réseaux de commerce et d'affaires qui voient les déplacements périodiques ou définitifs des Mauritaniens à Dubaï et les autres émirats de la péninsule arabique, ou encore en Chine ou au Japon, avec toute une série de conséquences dont l'une des plus curieuses est la contribution que ces déplacements et ces parcours qui s'inscrivent à travers l'ensemble de la map monde vers l'Asie en particulier vont avoir comme conséquence imprévue, par exemple, d'organiser la toponymie urbaine. Il existe à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, pour ceux qui n'ont pas forcément en tête cette référence géographique. Il existe à Nouakchott un quartier Las Palmas, souvenir de l'époque où les réseaux commerciaux s'orientaient vers cette ville, un quartier Dubaï à Nouadhibou qui est une autre ville mauritanienne, quartier qui est produit, dit-on, des blanchiments d'argent sale, et je pourrais multiplier les Bagdad, sauf naturellement la Mecque qui est inimitable et qu'on ne peut pas prendre comme référent sémantique. Ces échanges, toujours s'agissant de la Mauritanie et plus particulièrement de Nouakchott, vous m'entendiez, ça va. Ces échanges s'inscrivent aussi dans des réseaux d'individus et de groupes inscrits dans des courants migratoires d'une extraordinaire complexité. Réseaux d'organisation des départs plus ou moins clandestins, d'acquisition de papiers, de rapatriement des fonds au pays, d'investissements qui leur sont associés. Enfin, la Mauritanie est située sur une de ces routes transsahariennes par lesquelles remontent les migrants en provenance de l'Afrique subsaharienne en l'occurrence. Et cette présence des réseaux migratoires est extrêmement lourde dans la vie quotidienne et dans les paysages urbains actuels. Autres réseaux qui investissent le pays, les réseaux d'Al-Qaïda, les réseaux de trafic en tout genre qui menacent les frontières, plus ou moins associés aux filières de contrebande alimentées par la drogue, mais aussi par les cigarettes, qui l'on retrouve à Barbès ou à Marseille. En conséquence de l'augmentation des prix du tabac en Europe, vous avez un développement parallèle de ces réseaux. Les réseaux politiques, toujours autour de Nouakchott et de la vie politique mauritanienne, s'organisent de manière transnationale en fonction des activités, parce que les choses ont un petit peu bougé depuis le printemps arabe, s'organiser de manière transnationale en fonction des activités des ambassades arabes. Longtemps, la vie politique en Mauritanie s'est organisée en opposant bassistes, nassériens, pro-Kadhafi, pro-Wahhabites, dans le contexte donc d'une inscription de ces engagements politiques dans des réseaux de politique internationale plus vastes et dans des réseaux idéologiques différenciés. Ces réseaux politiques ont été renouvelés par les révolutions du printemps arabe, dont le choc médiatique a eu son écho à Nouakchott avec la formation du mouvement de la jeunesse du 25 février. Mais les réseaux d'islamisme radical se sont aussi, par la même occasion, développés avec l'essor du parti Tassawouf, et le pays n'échappe pas aux formes les plus dangereuses de cette radicalité, où la revendication de la totalité rejoint de nouveaux totalitarismes. Ces réseaux sont encore de nature culturelle et artistique, avec la pipolisation et l'inscription dans la world culture des productions musicales des griots locaux mauritaniens, dont la mort de la célèbre Dlimi il y a quelques semaines, maintenant on peut dire quelques mois, c'est plus précis, à Rabat a révélé l'importance. Qui par ailleurs ne regarde pas tous les soirs les émissions d'Al Jazeera, qui dispose sur place d'un bureau actif. Bon, c'est quelques notations, il ne s'agit même pas d'analyse, mais de petites notes que je vous présente. Ces quelques notations soulignent que, capitale d'un pays pauvre et encore dépourvu de ressources, Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, qui d'ailleurs n'existe comme capitale que depuis l'indépendance du pays, c'était un massif dunaire encore en 1960, Nouakchott, entre l'océan et l'Atlantique, puisque la ville est située au bord de l'océan, est sortie de son isolement et de sa marginalité, telle que je l'ai connue en 69. J'ai eu mon premier séjour en 69, c'était une petite ville de 25 000 habitants. Et nous avons maintenant une ville largement ouverte vers le monde, dans tous les domaines auxquels je commençais à faire quelques allusions. Bon, le constat, j'en suis conscient, est relativement banal, en tout cas pour ceux qui ont pu avoir une expérience des expériences de terrain que nous avons sur ces sociétés nouvelles, sur ces pays connaissant ce phénomène de globalisation ou de mondialisation. Donc le constat est relativement banal, mais souligne immédiatement que la recherche doit tenir compte de cet état de fait qui nécessite, selon la juste expression de Georges Marcus dans son ouvrage « Anthropology Now », paru en 1999, une ethnologie multisituée, prenant en compte cette fragmentation des terrains. La dimension institutionnelle de ces faits locaux, qui contribuait à justifier l'induction totalisante de ces faits, apparaît aussi moins évidente, remettant en question le projet anthropologique d'étudier, par exemple, la parenté, le politique, les rituels. C'est là la manière dont les anthropologues ont travaillé pendant très longtemps et qui semble aujourd'hui nécessiter d'être remise en question. Du fait de cette interaction croissante du local et du global, qui nécessite que l'on pratique simultanément une approche par le bas, s'appuyant sur les pratiques des acteurs locaux et leur propre logique, lesquels intègrent leur inscription dans cette globalité. Par exemple, les études sur les phénomènes migratoires qui représentent un aspect de la mondialisation particulièrement traité par les sciences sociales tendent à sortir du schéma classique les abordant dans leurs origines ou à travers les courants migratoires ou encore dans le contexte des conditions d'accueil. Le projet migratoire, dans les travaux actuels, sera aussi analysé comme une trajectoire individuelle et collective, s'alimentant des récits qui l'accompagnent, de l'imaginaire qui l'alimente. Il y a en particulier de travail très intéressant et de très beaux travaux qui ont eu lieu sur les poésies de la migration, des constructions culturelles qu'elles suscitent, et qui illustre, par exemple, la culture, ce que les Touaregs appellent la culture Ishumar. En fait, c'est tout simplement, c'est pas du tamashek, c'est du français. C'est la déformation du terme chômeur. Les Ishumar sont ces migrants qui, Touaregs, depuis plusieurs décennies, quittent leur pâturage traditionnel sur lequel ils nomadisaient pour aller chercher du travail ou d'autres ressources, plus guerrière parfois, en Libye et ensuite à travers le monde. Cette culture Ishumar est aussi une culture un peu globalisante qui se traduit par transformation des formes musicales, par des formes de poésie nouvelles. Enfin, un phénomène lui aussi assez global qui est donc né des migrations de travail de ces jeunes Touaregs vers la Libye puis à travers le monde. J'ai déjà noté que le rôle des médias contribue à remettre en question la définition d'altérité et l'efficacité heuristique du regard éloigné. La mise en scène globalisante du rapport avec les autres est particulièrement remarquable à travers la notion de spectacle, telle qu'elle intervient dans le domaine de l'art, musical en priorité, et peut-être surtout du sport, ainsi que dans le contexte du tourisme. Quelle que soit la position personnelle du chercheur en ce domaine, son désintérêt pour le football ou les concerts musicaux, ou encore son souci de ne pas apparaître comme un touriste, sa participation lui est assignée. Je prendrai l'expérience vécue de mes séjours actuels au Maroc. Être pro-Barça ou pro-Real est au Maroc un classement identitaire où doit se situer le chercheur. On vous pose la question, est-ce que vous, dans quel clan vous situez-vous ? Et la société marocaine est partagée assez clairement en deux clans opposés sur cette base. En éliminant peut-être les dames qui s'intéressent moins au football. Le problème dépasse cependant largement le contexte de l'observation scientifique et de l'écriture ethnologique. Arjun Appadurai a consacré une partie de ses travaux aux conditions de cette participation ouverte à des communautés imaginées, qui créent ces nouvelles conditions d'observation ethnographique, qu'il définit en parlant de paysage. En fait, on a traduit par paysage le terme anglais scape. Traduction, c'est un peu faute de mieux. Donc, en parlant de paysage et en généralisant la notion, en distinguant des champs diversifiés, il parle par exemple d'ethnoscape, là je le cite, pour désigner le paysage des individus fabriquant le monde changeant dans lequel nous vivons, touristes, immigrants, réfugiés, exilés, travailleurs immigrés et autres personnes et groupes se déplaçant, constitue un trait caractéristique du monde et semble affecter la politique des nations et entre les nations à un degré jamais atteint jusqu'ici. Appadurai parle aussi de Mediascape, pour évoquer le flot d'images et d'informations qui circulent à travers le monde. Il parle encore d'Ideoscape, pour rendre compte de la diffusion globalisée des informations et des signes concernant la démocratie, le bien-être, en fait, toute une série de types d'informations que vous recevez régulièrement par les médias sur la démocratie à construire, la bonne gouvernance, le bien-être, enfin, toute une série de notions dans lesquels nous baignons sans avoir forcément d'ailleurs le recul pour en apprécier la portée et le contexte. Ces paysages s'organisent de manière ouverte au gré des techniques et des pratiques nouvelles. Ce sont des paysages qui se renouvellent sans cesse. L'un des derniers tableaux qui nous a été dressé, c'est par exemple le phénomène iPhone. On peut aussi évoquer, ça m'a particulièrement intéressé, c'est pour ça que je me permets de le mettre un peu, peut-être plus au premier plan que ça ne le mérite comme intérêt d'étude en soi. Mais cette mondialisation, globalisation, il est intéressant de l'étudier aussi à travers les jeux d'enfants, par exemple. Et à travers ces phénomènes de diffusion. Parler de playscape, là, si on restait dans la tradition de Appadurai, dans la perspective qu'il a ouverte avec sa notion de paysage. De paysage de jeu, playscape, à travers ces jeux d'enfants qui représentent l'apprentissage de ces pratiques relationnelles. Donc, il s'agisse de... Vous avez tous eu des enfants ou vu des enfants... Trafiquant les collections de pins, faisant des échanges, de bracelets. Les pins ont été remplacés, enfin, je ne suis pas les choses de très près, par les bracelets élastiques. Il y a eu le Tamagotchi, il y a eu parfois aussi des jeux plus dangereux, qui demandent peut-être plus d'intervention des adultes, comme ce jeu des foulards qui est actuellement la cause de quelques accidents tout à fait dramatiques. Il représente autant de champs structurés qui soulignent l'intériorisation globalisante des valeurs et des représentations, comme des mondes imaginés, des mondes multiples, avance Appadurai, constitués par des imaginations historiquement situées de personnes et de groupes dans le monde entier. Dans ce foisonnement de paysage où elle tend à se dissoudre, le statut de l'altérité suscite de nouvelles interrogations sans pour autant accéder à une nouvelle objectivité. La globalisation culturelle entraîne aussi un raidissement de la pensée des différences qui fait les beaux jours des tenants de la théorie du choc des civilisations, sous-entendant immanquablement le triomphe d'une seule, ou l'apartheid cher au populisme contemporain, théorie initiée par un essai d'analyse politique de l'Américain Samuel Huntington, professeur à Harvard, intitulé « The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order », qui est paru en 1996 et qui a été traduit en français dès 1997. À l'inverse, les études postcoloniales s'emploieront à dénoncer et à analyser les présupposés de ces représentations d'altérité, telles qu'elles se manifestent dans les productions littéraires et scientifiques, en particulier en anthropologie. Sans que je puisse développer cette question, puisque je vois que le temps passe et que je vais m'arrêter incessamment, je rappelle que les études postcoloniales ont été aussi critiquées en France pour leur ambivalence épistémologique quand elles sortent du domaine de la littérature où elles se sont d'abord développées. C'est le thème d'ailleurs là d'un ouvrage que je vous conseille aussi, qui est tout à fait éclairant sur des phénomènes tout à fait contemporains, qui est le livre de Jean-François Bayard, Les études postcoloniales, un carnaval académique, qui est paru en 2010. Bon, je ne vais pas tenter de répondre plus précisément à la question que je posais dans l'intitulé de mon intervention. Y a-t-il encore place pour un projet anthropologique qui veut lui-même par définition restituer la totalité humaine? Est-ce qu'il y a encore une place dans ce nouveau contexte de la globalisation? Peu de chercheurs en doutent, me semble-t-il. Mais en est-il de même dans le public qui nous écoute et chez les politiques qui ont une responsabilité, serait-ce financière, dans l'institutionnalisation de nos disciplines des sciences sociales? C'est une question qui mériterait d'être posée. Si la fin de l'anthropologie pourrait être envisageable pour ceux qui l'associent avec l'occidentalisation du monde et proclament son déclin avec celui de l'Occident, ou encore postulent de l'achèvement de cette occidentalisation et de la disparition des différences culturelles, donc de l'intérêt de leur étude, cette position est rarement assumée en tant que telle par les chercheurs. La plupart des travaux, cependant, concluent que la discipline doit se transformer pour répondre aux conditions nouvelles de son exercice et peut-être à la redéfinition de son projet. Et cette redéfinition, c'est, je pense, et je terminerai sur cette réflexion très, très ouverte, cette redéfinition, c'est la redéfinition de nouvelles formes de relativisme question qui se pose déjà dès à présent sur des points à la fois particuliers et extrêmement importants, comme celui de... Je vais quand même essayer de vous en dire quelques mots. Sur des points importants comme celui de la tension qui se manifeste entre la référence à une nouvelle forme d'universalité, cette forme d'universalité la plus prend la dimension la plus évidente à travers les références à la théorie des droits de l'homme, par exemple, et manifestations de ce qu'on appelle les communautarismes, généralement pour désigner toute une série de pratiques qui reste le propre de telle ou telle culture ou telle société humaine. Cette réflexion sur le relativisme que je ne peux pas développer ici est particulièrement intéressante s'agissant de cette tension donc entre universalisme et communautarisme. Et je pense que sans que je développe, vous serez suffisamment conscient qu'elle est aussi une question qui se pose avec beaucoup d'acuité dans nos sociétés contemporaines, y compris dans la société française. Voilà, je vous remercie. J'ai tenu
en une heure, puisqu'on m'a dit qu'il fallait être très à cheval sur les horaires, puisqu'il y a une séance de cinéma ensuite, qui j'espère sera plus drôle que mon texte.
Ça fonctionne. Eh bien, comme toujours, c'est ouvert aux questions.
Je vais demander en quoi la méthodologie d'études en anthropologie a beaucoup changé depuis les années 70. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des révolutions dans la façon de procéder, la recherche systématique d'un terrain d'étude, est-ce qu'on commencerait une carrière d'anthropologue de la même façon qu'on le faisait il y a 40 ans, par exemple?
Non, c'est ce que j'ai laissé entendre. J'ai commencé, moi, mes travaux sur les Touaregs sur les Touaregs et sur des sociétés voisines, Peul et Aoussa, au Niger. On passait par un état d'ethnologue immergé dans une culture, une société, dans un village ou dans un campement nomade, dont la compréhension, parce que cette compréhension passait par le caractère un peu globalisant institutionnellement des faits observables au niveau local, nous donnait une idée raisonnable de l'ensemble de la société. On peut jamais décrire le fonctionnement d'une société dans toutes ses nuances, dans toutes ses modes de contextualisation par ailleurs. Mais on pouvait avoir une idée raisonnable du fonctionnement d'une société à travers cette expérience monographique, en quelque sorte. Actuellement, ça n'a pas beaucoup de sens. D'abord, il n'y a plus de village. Je travaille actuellement au Sahara occidental. 95% de la population, 95%, est urbanisée. Il s'agit de gens qui, il y a deux générations, vivaient dans des campements sous la tente, pratiquaient un élevage camelin, un pastoralisme nomade. Déjà, le simple fait de passer à l'échelle urbaine avait posé des problèmes aux anthropologues. Mais ces problèmes, elle les avait partiellement résolus à travers toute une série d'approches diversifiées. Il y a eu plusieurs... des travaux sur les villes, sur le Mexique, par exemple, de Sanchez, ou les travaux qui ont été faits en France sur l'anthropologie urbaine ne relèvent pas tout à fait des mêmes démarches, mais on avait réussi à intégrer quand même ces approches dans les approches classiques de l'anthropologie. Actuellement, étudier même un mouvement religieux comme les mourides sénégalais, c'est une congrégation, une confrérie religieuse très, très importante qui regroupe plus d'un million de Sénégalais. Alors déjà une dispersion à travers le pays sénégal, mais vous ne pouvez pas l'aborder sans aborder simultanément l'étude de ses ramifications aux États-Unis, en Europe, les réseaux commerciaux qui se sont montés, la manière dont la confrérie intervient pour l'organisation des flux migratoires, etc., etc. Vous prenez la musique, j'en ai parlé, j'en ai dit deux mots, la musique mauritanienne, qui est une musique assez savante, très... très, très identitaire, enfin, qui manifeste très clairement qui a une fonction d'identité culturelle très forte, même si en fait une partie de cette musique est empruntée au monde africain subsaharien voisin. Cette musique se diffuse maintenant sous forme de cassette, se représente dans des salles de spectacle, alors que le rôle du musicien, qui était en même temps le griot dans la société traditionnelle, était d'être attaché à une tribu et d'être l'interprète des faits et gestes héroïques et chevaleresques des membres de cette tribu. Mais il n'y a pas seulement les cassettes, le spectacle, il y a aussi tout
la transformation que cela implique de l'expression musicale, et en particulier des instruments, l'introduction de la guitare, l'introduction de la batterie, qui a amené des modifications tout à fait conséquentes, et que vous ne pouvez pas étudier en Mauritanie, parce que la plupart des groupes qui ont procédé à ces transformations, qui sont même éventuellement des groupes pluriethniques, qui créent une musique métisse entre la musique des arabophones, la musique traditionnelle maure, et la musique des Noirs, Wolof, Sonaké, Peul. Tous ces groupes et ces manifestations musicales se passent aussi à l'étranger. Donc vous ne pouvez pas rester dans le cadre de la monographie. Vous êtes obligé de suivre ces réseaux qui mènent les femmes mauritaniennes, par exemple, se déplacent pour faire du commerce jusque Dubaï, qui est devenu maintenant le grand centre de redistribution dans le monde à l'échelle mondiale, remplaçant Las Palmas, qui était encore un centre local pour les pays africains voisins, représentait un centre d'attraction économique qui a en grande partie disparu. Donc vous voyez, on ne peut plus. C'est pour ça que les anthropologues parlent de. Ou les nouveaux ethnologues, disons, parlent d'ethnologie multisituée. C'est particulièrement vrai pour le religieux. Avec parfois une échelle vraiment de mondialisation. Pensez au monde évangéliste. Le monde évangéliste américain qui rayonne sur pratiquement tous les continents.
Oui. Voilà, donc je pense que j'ai sinon répondu à votre question, du moins alimenté le débat.
D'autres questions ?
Bon, on essaye de les comprendre, les Sahariens. Comment nous comprennent-ils ?
Je t'entends mal.
On essaye de les comprendre. Comment eux essayent-ils de nous comprendre, les Français ? Et en particulier, je veux dire, les Sahariens, comment perçoivent-ils notre intervention actuelle ?
J'aurais quelques difficultés à vous donner une réponse simple, parce que je ne pense pas qu'il y ait qu'une seule appréciation. Selon les cas, si vous êtes membre du MUJAO, ou d'Al-Qaïda d'une part, ou si vous êtes un nomade de Mauritanie, vous n'allez pas avoir le même point de vue sur la question. Alors, si je comprends bien votre question, et si je réponds sans doute un petit peu à côté de ce que vous attendez, c'est parce que je voudrais souligner d'abord que l'anthropologie elle-même s'est mondialisée. Jusque dans les années 50, 60, à quelques exceptions près, comme le Mexique ou l'Inde, pour des raisons particulières, des raisons historiques, le problème au Mexique de la place de l'indigénisme, qui a été la théorie officielle de l'État mexicain, ou encore en Inde le poids des castes et des tribus, enfin l'importance de la différenciation ethnique dans la gestion administrative et politique du pays. En dehors de quelques exceptions de ce genre, l'anthropologie était occidentale. C'était des blancs européens ou américains qui faisaient des études dans un contexte qui était souvent celui de la colonisation, pas systématiquement, mais quand même très généralement. La pratique de l'anthropologie s'est complètement modifiée de ce point de vue-là. C'est pas par hasard si l'un des l'un des leaders des recherches et des études sur la globalisation, Arjun Appadurai, est un Indien, d'Inde, hein, pas d'Amérique, un hindou, enfin le terme hindou encore un autre sens, un Indien qui est enseignant aux États-Unis, dans une université américaine, et qui est donc un peu l'un des précurseurs de ces études. Simultanément, vous avez, j'en ai pas parlé, mais j'aurais pu en parler aussi, simultanément, vous avez aussi la tentation de développer ce que certains ont appelé des regards croisés, c'est-à-dire de faire étudier nos sociétés par des occidentales, par ceux qui étaient les objets d'études antérieures. Alors ça a donné des résultats assez curieux, assez intéressants, pas toujours très sérieux dans les conditions de... Il faudrait avoir des conditions très, très précises de gestion de ce genre de situation pour que ça soit tout à fait pertinent. Mais pour vous dire qu'il y a cette tentation, donc là aussi, il y a un changement assez important de... Moi, personnellement, par exemple, j'ai dirigé pas mal de thèses dans ma vie, et la moitié sont des thèses d'anthropologie soutenues par des étudiants maghrébins, mauritaniens, puisque c'est mon terrain. Je veux dire, je ne fais pas le choix de la nationalité de ces étudiants, mais travaillant sur ce terrain, ce sont des étudiants maghrébins, mauritaniens ou autres, intéressés, non occidentaux, intéressés par ce genre de problématiques. Donc là aussi, il y a des changements importants qui se dessinent et qui redessinent le profil de l'anthropologie en général et de l'anthropologue en particulier. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à vos demandes, mais je suis prêt à poursuivre le dialogue si vous voulez reformuler.
Une dernière question. Bon, on peut conclure sur ces derniers mots et aller prendre un verre juste à côté pour nous réchauffer. Je remercie Pierre. Et je vous donne rendez-vous le 9 mars. Il y a eu un changement, c'est plus le 16, le 9 mars. Une conférence d'un historien sur les printemps arabes. Voilà, à 15h. Sans la neige cette fois-ci.
Oh, je vous remercie aussi pour cet accueil chaleureux malgré l'extérieur.